Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une émission préparée par Fanny Richer, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Clément Batté. Il portait la voix de la France en février 2003 pour dire non à la guerre en Irak. Dominique de Villepin doit se sentir bien seul aujourd'hui. L'ancien Premier ministre vient de signer une tribune dans laquelle il se dit hostile à l'intervention militaire en cours contre les combattants de l'État islamique. « On frappe pour se donner bonne conscience », écrit Dominique de Villepin. Mais quel sens cela a-t-il si cela crée des vocations pour 10 nouveaux fous de Dieu ? Des prises de position de cette nature, vous en trouverez peu parmi les politiques. Après le large vote de la semaine dernière à l'Assemblée en faveur de la nouvelle loi contre le terrorisme, les parlementaires français s'apprêtent à approuver après-demain, sans voter, la participation de la France à la coalition internationale mise en place par les États-Unis. Alors, il est vrai que la nature de l'ennemi ne prête guère le flanc au débat, difficile de lui trouver des circonstances atténuantes. Il est vrai encore que les bombardements aériens en cours répondent à une demande du gouvernement irakien, un gouvernement légitime. Cette nouvelle guerre démarre donc dans un contexte très différent de celui d'il y a 11 ans, sauf que le terrain est le même, l'Irak. Sauf que ce qui s'est passé à l'époque n'est pas étranger au chaos actuel. Alors, intervention en Irak, les leçons de 2003 ont-elles été tirées ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. François Géré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, président fondateur de l'Institut français d'analyse stratégique, chargé de mission auprès de l'Institut des hautes études de défense nationale. On vous doit chez Larousse la nouvelle géopolitique, guerres et paix aujourd'hui. Pour discuter avec vous ce soir, quelqu'un qui normalement aurait dû être dans nos studios à Paris, mais à cause de la grève d'Air France, elle est coincée à New York. Il s'agit d'Alexandra de Hoopscheffer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, spécialiste de la politique étrangère américaine. Vous êtes la directrice à Paris du German Marshall Fund, qui est un think tank américain. Vous aviez publié aux éditions du CNRS en 2007 « Hamlet en Irak ». Notre troisième invité, Stocham Daoud. Bonsoir.
Bonsoir.
Anthropologue au CNRS, responsable jusqu'à aujourd'hui de l'antenne de l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient. L'antenne, c'est l'antenne irakienne.
Jusqu'à il y a deux semaines.
Voilà. On ne sait pas très bien ce que va devenir cette structure, en tout cas son antenne irakienne, c'est ça ?
Oui, dans le contexte actuel, la question se pose.
Vous avez publié l'an dernier aux éditions Démopolis « La constante tribu, variation arabo-musulmane ». Alors, Hocham Daoud, vous étiez il y a quelques heures encore en Irak. Vous étiez jusque-là en poste à Erbil. Erbil, c'est la capitale de la région autonome du Kurdistan. C'est une ville qui ressemble à quoi aujourd'hui ? Est-ce que c'est une ville en guerre que vous avez quittée ?
Non, pas tout à fait. Bon, la situation s'est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus secouée il y a quelques semaines, il y a à peine un mois et demi, quand Daesh, ce qu'on appelle l'État islamique en Irak, le vent s'est rapproché de la ville de Erbil. Il y avait une panique parmi la population, des dizaines de milliers de personnes qui se dirigeaient vers l'extérieur, de voitures, etc., et de familles. C'est vrai, l'image un peu véhiculée exprès par Daesh pour effrayer la population, à secouer le Kurde. De l'autre côté, c'est vrai, bon, le fait qu'ils ont vu l'effondrement littéral de leur propre armée après celle de Bagdad a quand même a créé un doute profond. Jusqu'à aujourd'hui, le Kurde, ils n'ont pas s'en sorti.
Est-ce que le fait que les Américains entament des frappes aériennes contre l'État islamique et que les États-Unis soient rejoints là, il y a quelques jours seulement par la France, est-ce que ça a contribué à réfréner peut-être un peu la panique de la population irakienne ?
Largement. Pour deux raisons. Bon, la première, je crois que bon, le Kurde, il pense qu'il y a une ligne rouge concernant leur ville, leur région établie, tracée par les Américains, qu'il n'y aura pas la chute d'Erbil comme il n'y a pas eu la chute de Bagdad. Et deuxième chose, je crois que bon, il y a au sol, non seulement dans les ciels, il y a au sol des experts, il y a des forces spéciales américaines qui participent avec le Kurde pour gérer les frappes sur le terrain et qu'ils soient un peu plus efficaces. Donc, le Kurde, il ne se sent pas seul, même s'il y a des alliances sur le terrain et dans la région, se font et se défont. Jusqu'à hier, le Kurde, ils étaient très sûrs de leur alliance avec la Turquie. Aujourd'hui, ils découvrent que ça a été un boulet pour eux. Ça fiait tout à la Turquie au moment qu'aujourd'hui nous avons des doutes sur la crédibilité d'Ankara par rapport à Daesh. C'est vrai, le réveil, ça a été assez dur pour les Kurdes.
Donc juste un mot, ensuite on va faire évidemment parler Alexandra Dobscheffer et François Géré. Mais Hocham Daoud, est-ce qu'on peut dire qu'une large partie de la population irakienne, en tout cas, est favorable à ces frappes aériennes de la coalition internationale ?
Certainement. Si on se situe du côté kurde au nord, je peux dire l'écrasante majorité, ils sont, je dirais, Obama, comme avant lui Bush, il était beaucoup plus populaire chez la Kurde que chez lui. La question se diverge un petit peu quand il s'agit de Bagdad avec la chiite et la sunnite. À ce moment-là, bien sûr, la population se situe différemment. Qui sont les cibles ? C'est les arabes sunnites. Est-ce qu'ils sont favorisés par la frappe américaine contre les chiites qui se trouvent à Bagdad ? C'est une question qui se pose. Et même parmi les chiites, il y a des divergences, comme Muqtada Sadr. Il est contre la participation américaine, tandis que de l'autre côté, le gouvernement légitime qui se trouve sur place aujourd'hui à Bagdad, au contraire, il se trouve l'allié légitime. Il y a même un traité de défense mutuelle entre l'Irak et les États-Unis d'Amérique.
Alors Alexandra Dobscheffer, j'imagine que pour la diplomatie américaine et pour l'armée américaine, avoir l'assentiment d'une large partie de la population irakienne, c'est quelque chose d'extrêmement important pour ne pas justement se retrouver dans une situation identique à celle de 2003.
Oui, absolument. Je pense que c'est indispensable. Et on voit d'ailleurs que la guerre de 2003 continue à hanter finalement les débats qu'il y a eu ces derniers jours à Washington autour de la stratégie américaine à déployer dans la région. On voit également une très grande prudence aussi par rapport au discours que le président Obama porte par rapport à l'opinion américaine. Je pense que Obama est encore plus intéressé par, je dirais, le soutien ou pas au sein de l'opinion américaine qu'en Irak. On voit que tout son discours est véritablement tourné dans ce sens-là, notamment avec l'idée de ne pas mettre de, comme il dit, de boots on the ground, donc de ne pas impliquer en tout cas les troupes militaires dans des combats, sachant que en fait ce discours est un petit peu brouillé puisqu'il y a au jour d'aujourd'hui environ 1600 militaires américains déjà présents en Irak qui, comme l'a dit le précédent intervenant, sont en train d'accompagner et de soutenir les Peshmerga, les forces kurdes irakiennes pour essayer de gérer les attaques contre Daesh.
François Géré, la nécessité d'avoir un large soutien, elle s'est posée dans les mêmes termes du côté français ?
Du côté français, on a assisté quand même à une évolution parfois un peu curieuse. Au début du conflit, le ministre de la Défense, M. Le Drian, a dit assez brutalement, assez nettement, la France ne peut pas tout faire, la France ne peut pas être partout. Et donc on a eu immédiatement le sentiment que non, ça n'était pas effectivement le combat de la France qui était occupée par ailleurs, qui, il faut le préciser, est toujours préoccupée par ailleurs. Hein ? Et c'est pas seulement le Mali, c'est pas seulement en Centrafrique. Aujourd'hui, se pose très très gravement, du point de vue français, la question de la Libye. Bon, et donc effectivement, dire on peut pas être partout, ça pose la question des moyens dont dispose la France, parce que on peut effectivement envoyer deux rafales, tirer quatre bombes, c'est bien vu par l'opinion publique pour le moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Qu'est-ce qu'on cherche finalement ? Et c'est là où il y a véritablement un problème, c'est de savoir sur le terrain avec qui sommes-nous alliés. On voit très bien qu'on est contre, évidemment, Daesh. Mais quand vous disiez, est-ce que c'est le même type de guerre ? Est-ce que c'est le même espace qu'en 2003 ? En 2003, c'était l'Irak. Aujourd'hui, c'est plus seulement l'Irak, c'est l'Irak et la Syrie. Et c'est là où les difficultés se posent, parce qu'il y a les Kurdes d'Irak, il y a les Kurdes de Syrie, et pour Daesh, il n'y a pas de frontière entre la Syrie et l'Irak.
Vous dites, François Géré, qu'est-ce qu'on cherche là-bas ? Ben, peut-être qu'en 2003, on savait au moins ce qu'on cherchait, Hocham Daoud, c'est-à-dire l'idée, c'était de renverser le régime de Saddam Hussein. aujourd'hui. Est-ce que les objectifs vous semblent aussi clairs? C'est quoi? On est là pour, je parle de la coalition internationale, pour aider le gouvernement irakien à éradiquer complètement Daesh, l'État islamique, pour le neutraliser, pour réduire son influence?
L'objectif affiché, c'est justement stopper l'avancée, la dynamique de Daesh, qui menaçait réellement de... il s'est occupé de deuxième ville de pays, quasiment un tiers de superficie de l'Irak. Il s'est rapproché dangereusement de la ville d'Erbil, la capitale de Kurdistan d'Irak. Mais vous savez, il y a plusieurs portes de rentrée en Irak. Je crois que si les États-Unis ont maintenant un passif dans ce pays-là, renversé le régime, il se trouve sur place, il y a une responsabilité politique, géostratégique, morale. Pour la France, ce n'est pas le cas. En 2003, la France était opposée. Aujourd'hui, quelle porte a prêté la France pour rentrer en Irak? En réalité, c'est la porte kurde. Jusqu'au renversement du régime de Maliki, la France s'intéressait peu à ce qui s'est passé à Bagdad. Le seul contact continu, ça a été avec Erbil, avec les dirigeants du Kurdistan d'Irak. Puis la France investit largement pour sensibiliser l'opinion européenne, etc., pour livrer des armes au Kurdistan. Et la France est partie d'un jugement que la situation de l'Irak s'est un peu plus secouée, c'est qu'il s'intéressait davantage à ce qui se passe au nord de l'Irak, avec toute cette forme de multiplicité ethnique, religieuse ou confessionnelle, que ce soit chrétienne, après yézidi, etc., et le kurde. Et un peu plus tard, dans cette évolution, avec le changement de Maliki, la France a commencé à s'intéresser à ce qui se passe à Bagdad, au point que maintenant, elle parle de nouveau la souveraineté de l'Irak, l'intégrité de l'Irak, mais assez souvent, on voit qu'il y a quand même un prisme kurde dans la politique, dans la stratégie française. Toutes les aides françaises s'acheminaient vers le nord. Toute la présence française réelle sur le terrain politiquement, militairement, c'était dans la partie nord.
Je voudrais faire juste un point sur ce que vous venez de dire, parce que vous avez mentionné l'ancien Premier ministre Maliki. Quelques jours avant le changement de Premier ministre, le ministre français des Affaires étrangères, M. Fabius, est allé en Irak. Il a vu M. Maliki et il lui a dit...
Il n'a pas vu M. Maliki. Il a vu des autorités là-bas, mais il n'a pas vu M. Maliki. C'était la condition qu'il s'est rendu en Irak pour ne pas rencontrer Maliki.
Il lui a fait savoir qu'il était important de changer le comportement gouvernemental et de laisser une place plus large aux sunnites. Et que c'était la condition indispensable d'un gouvernement véritablement représentatif d'union nationale en Irak. La France, dans cette affaire, prenait une position qui consistait à dire qu'il faut laisser davantage d'espace politique et respecter les droits des sunnites, ce qui était une position qui était défendue et soutenue par un certain nombre d'autres pays arabes extérieurs à l'Irak, mais ayant une forte influence en Irak. On est d'accord là-dessus?
Non. La raison est très simple. Parce que, franchement, changement de régime en Irak, même de Premier ministre, c'est une bonne chose. C'était prévisible. Il y avait une pression très importante à l'intérieur de l'Irak. Il y avait un blocage dans la région. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elle a la France comme moyen de pression pour changement à un Premier ministre en Irak? Très peu. Deuxièmement, c'est les premières visites de M. Fabius en Irak 2 ans après. Jamais on a eu même un ministre des Affaires étrangères qui l'a boudé, boycotté l'Irak de sa rentrée. La seule porte il avait de contact, de continuité, de connivence, ça a été avec Erbil, il est dirigeant du Kurdistan d'Irak. Jamais avec ce qui s'est passé en Irak. Donc voilà la situation. Nous avons peu de moyens de pression. C'est vrai, on a rejoint après le cortège international.
Alors peu de moyens de pression. S'il y a un pays qui a des moyens de pression, ça va me permettre de retrouver Alexandra de Hoopscheffer, qui je rappelais au téléphone depuis New York, sont bien les États-Unis. Est-ce que, je sais que vous avez rencontré un certain nombre de responsables pendant ce séjour américain, Alexandra de Hoopscheffer, est-ce que les stratégies vous paraissent avoir une stratégie aujourd'hui assez claire pour l'Irak, ou bien est-ce qu'on est encore en train d'y réfléchir? C'est-à-dire à la fois une stratégie pour quels sont les objectifs militaires qui sont poursuivis, mais aussi peut-être pour plus tard, et quels sont les objectifs politiques?
Je
pense qu'on est, on n'est pas du tout dans la stratégie. Je pense qu'on est plutôt dans la réaction tactique, en fait, dans l'urgence. Notamment parce que il y a eu ces deux journalistes américains qui se sont fait décapiter en étant ici aux États-Unis. On ressent que c'est cette double décapitation en fait a été un vrai tournant dans la politique américaine. Je pense qu'on n'aurait pas vu cette accélération et cette réaffirmation du leadership américain s'il n'y avait pas eu ces deux événements-là. Je pense que c'est un facteur très important. Je dis qu'il n'y a pas de stratégie parce que juste pour le simple fait que de limiter en fait les frappes aériennes à l'Irak, tout en soulignant qu'on ne va pas frapper des cibles de Daesh situées en Syrie, me semble être tout à fait non stratégique, hein, puisque, comme l'a très bien dit Hocham Daoud il y a quelques minutes, il n'y a plus du tout de frontière entre la Syrie et l'Irak. Et donc, si on veut agir sur ce groupe extrémiste, il faut bien entendu étendre la politique, la tactique, je dirais, en Syrie. Et ça fait véritablement débat aujourd'hui à Washington.
Ça fait débat entre qui et qui Ça fait débat entre qui et qui, Alexandra de Hoopscheffer? Est-ce que c'est un débat clivant au niveau politique ou c'est au sein même de l'administration américaine?
C'est au sein même de l'administration Obama, mais je dirais de manière beaucoup plus précise et très claire. En tout cas, c'est ce qui est ressorti là, ces derniers jours dans le cadre des débats qui ont eu lieu au Congrès et notamment au Sénat, où le chef d'état-major des armées américains, Martin Dempsey, a été auditionné. Il a très clairement dit que lui, donc d'un point de vue de l'armée, et d'ailleurs toute l'armée est derrière lui, qu'il envisagerait que dès qu'il pense qu'il faudrait absolument étendre les frappes ou même envoyer éventuellement, et il a dit ça très clairement, des troupes au sol, aussi bien en Irak ou en Syrie, pour véritablement rendre l'action internationale beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui, qui ferait cette recommandation auprès du président américain. Quelques minutes après, le président Obama a fait une déclaration en disant qu'il est absolument hors de question pour le moment d'étendre les frappes à la Syrie et surtout il est hors de question d'envisager que des forces de combat américaines s'engagent aussi bien sur le terrain irakien que syrien.
Ça, ne pas engager des troupes au sol, Alexandra de Hoopscheffer, c'est vraiment une conséquence très directe de ce qui s'est passé depuis 2003 en Irak.
Bien entendu. Et puis on voit d'ailleurs que ce discours déteint très clairement également sur le discours français, où le président Hollande a été très clair en disant on n'enverra pas de troupes. Tous les alliés, que ce soit les Australiens, les Canadiens, auprès de leur opinion publique, soulignent qu'effectivement, il est hors de question d'envoyer des troupes. Mais on voit très bien, et je pense que le chef d'état-major des armées américaines, Martin Dempsey, ou même le secrétaire à la défense, Chuck Hagel, il y a vraiment une alliance entre eux, je dirais, et avec qui portent un regard finalement critique de la politique suivie par leur propre président. Donc on voit qu'il y a énormément de tensions au sein de l'administration Obama. Eux sont tout à fait prêts et je pense auraient souhaité que l'action s'étende plus rapidement vers la Syrie et puis surtout qu'il soit intégré dans la stratégie, si on peut parler de stratégie américaine, le fait que les militaires américains puissent s'engager peut-être ponctuellement dans des activités de combat auprès des forces irakiennes ou alors auprès des, on ne sait plus comment les appeler, les rebelles modérés syriens qui luttent contre à la fois le régime d'Assad et Daesh et d'autres groupes extrémistes en Syrie. Donc effectivement, le vrai nœud du débat, c'est précisément ça. C'est est-ce qu'on va étendre en fait l'action militaire à la Syrie? Pour moi, c'est juste inévitable, mais pour le moment on voit un blocage au niveau de la Maison-Blanche parce qu'il y a la crainte en fait de paraître comme soutenir Bachar al-Assad finalement contre ses groupes sur son propre territoire et de faire le travail à sa place. Et puis le deuxième nœud, c'est effectivement cette idée d'impliquer les militaires américains qui sont déjà présents sur le sol irakien, ils sont environ 1600 aujourd'hui, dans des actions de combat. Qui pour le moment n'est absolument pas envisagé par Obama.
Mais je pense François Géré, on pose la question ce soir, je vous rappelle la problématique, hein, les leçons de l'intervention en Irak de 2003 ont-elles été tirées? Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si ces leçons on les tire un peu trop peut-être aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que finalement le passif que les Occidentaux et notamment les Américains ont en Irak ne les bloque pas aujourd'hui pour aller au bout d'une stratégie militaire qui serait peut-être un peu plus cohérente ?
La grande question aujourd'hui du point de vue américain, c'est de savoir quelle est la cohérence. Alors effectivement, comme il vient d'être dit, on ne voit pas de stratégie. On voit une espèce d'hésitation tactique par rapport essentiellement à la politique américaine. Alors rappelons quand même qu'au niveau de son opposition politique, c'est-à-dire essentiellement républicaine, Obama a été, au début du mois d'août, quand il a annoncé qu'il fallait intervenir et faire des frappes, il a été félicité par deux figures importantes du Parti républicain en politique étrangère, c'est-à-dire les sénateurs McCain et Lindsey, qui ont dit « c'est très bien, c'est une très bonne décision, mais il faut en faire beaucoup plus hein, », parce que ça ne suffit pas de faire quelques frappes ponctuelles pour protéger des populations en danger très grave, etc. Il faut faire beaucoup plus. Et ces responsables américains, en fait, sont dans la droite ligne d'une chose qu'on a évidemment oubliée, c'est-à-dire lorsque, en 2003, les États-Unis ont remporté la victoire facile sur Saddam Hussein, il y avait une partie de l'administration américaine, notamment le vice-président Richard Cheney, qui disait « Bon, ben, c'est bien gentil, mais les armes de destruction massive que l'on ne trouve pas en Irak, elles sont passées en Syrie. Et donc, pour faire le travail, il faut aller jusqu'en Syrie, se débarrasser de Bachar al-Assad, et puis on mettra un ordre américain libre et démocratique dans la région. » Naturellement, ça ne s'est pas fait. Mais aujourd'hui, vous avez une partie des républicains américains qui consiste à dire que ce qu'on n'a pas fait en 2003, si vous voulez, en 1991, on n'avait pas fini le travail. On l'a fini partiellement en 2003 et il faudrait maintenant, en 2014, complètement le terminer, d'où le risque extrêmement grave, j'insiste là-dessus, de dérapage par rapport à la Syrie. Parce qu'il y avait en 2003 un absent qui est aujourd'hui un grand présent, c'est-à-dire l'Iran, qui aujourd'hui est en Irak, qui aujourd'hui organise, entraîne, encadre les milices chiites irakiennes et qui constitue un élément majeur dans la région, aussi bien en Irak qu'en Syrie.
Hocham Daoud, les militaires américains, l'armée américaine a officiellement quitté l'Irak en décembre 2011. Est-ce que ça vous paraît envisageable du point de vue de la population irakienne de voir revenir des soldats américains sur le sol irakien pour combattre l'État islamique ?
Parmi la politique et la classe politique irakienne, que ce soit sunnite ou chiite, à part le kurde, bon, bien sûr, publiquement, personne n'ose déclarer que nous souhaitons le retour des Américains au sol. Mais réellement, quand Daesh s'est rapproché de port de Bagdad, quand on a vu toutes ces images, la chute de Mossoul, et puis il y a ce clivage qui s'est produit, qui a travaillé la société en profondeur, avec sa frontière qui tombe entre la Syrie et l'Irak, avec un risque d'une guerre civile confessionnelle à l'échelle régionale, bien évidemment, il n'y a pas d'état d'âme à ce moment-là.
On se dit quoi, c'était pas si mal finalement qu'il y avait les soldats américains. De la même manière que quand il y avait les soldats américains, peut-être que certains Irakiens se disaient c'était peut-être pas si mal du temps de Saddam Hussein.
Vous savez, un Irakien moyen ordinaire, il pense que peut-être ça n'était pas si bien, c'était pas bien de rentrer en 2003 à renverser le régime, à mettre à terre l'État et l'armée, mais c'était non plus bien de quitter l'Irak, c'est qu'il était en race campagne. Donc, double erreur. Ça, c'est l'état d'esprit d'un Irakien ordinaire moyen. Aujourd'hui, un Irakien, quand il pense, quand il y a des dizaines de voitures piégées, de mortiers qui tombent, il y a des kamikazes, etc., la première souci, peut-on s'en sortir ? Ça, c'est la première chose. Il faut voir qu'est-ce qui se passe à Bagdad depuis 2004-2005. C'est ça, le vrai enjeu. Ça, c'est une question essentielle. Deuxièmement, c'est vrai, nous sommes devant une situation qui s'est posée aujourd'hui avec Daesh. L'Irak, en tant que tel, il encourait un risque de se défaire. Et puis, il se projette comme déflagration au niveau régional. Et il y a l'emboîtement de problèmes. Vous prenez simplement, tout à l'heure, on a évoqué l'Iran. Comment faire avec un pays qui se trouve comme un adversaire en Syrie, mais un allié potentiel en Irak? Sur le terrain, il a contre Daesh en Irak. Il aide l'armée irakienne. Massoud Barzani lui-même, il a dit, les Iraniens, ils sont intervenus au Kurdistan d'Irak pour sauver Erbil bien avant les Américains. Ils l'ont fait à Bagdad. Comment ? On peut s'en passer facilement. Je crois qu'on peut pas, on peut ignorer l'Iran, on peut, disons, contrecarrer l'Iran, mais en Irak, pas en Syrie, on ne peut pas, disons, sous-estimer le rôle iranien. Donc voilà un cas très spécifique. Deuxièmement, la Turquie, un allié très proche, au contraire de l'Iran. Aujourd'hui, nous sommes très gênés. On voit où ça trouve la Turquie. De côté de Daesh, de côté de ceux qui sont hostiles aux djihadistes. On voit comment ça se passe, les échanges. L'essentiel de pétrole trafiqué par Daesh est vendu en Turquie. La plupart des djihadistes, ils passent par la Turquie. Donc, on se pose légitimement des questions. Vous voyez, ce conflit à l'intérieur de l'Irak et au-delà de l'Irak a bien changé de carte. Même la France en 2003, tout à l'heure, on a dit les leçons étaient tirées. En 2003 et maintenant en 2014. On se pose des questions, qu'est-ce qui a changé pour la France? Bon, pour la France, l'essentiel, c'est ce qui a changé. Il y a un État reconnu légitime, il y a un appel de l'État irakien vers la France, il y a une demande d'intervenir pour venir en aide. Je crois que le Paris est dans son rôle, légitimement, il a répondu à cette question-là. Oui, on peut, mais la seule chose qui se pose, est-ce que nous avons le moyen, à partir de Paris, d'influencer le cours des choses là-bas qui se trouve en Irak? C'est une question aussi politique et légitime à poser.
Alexandra de Hoopscheffer, est-ce qu'aujourd'hui, la décision de retirer l'armée américaine d'Irak, donc fin 2011, est considérée comme une mauvaise décision?
Alors, il y a les deux camps. Vous allez effectivement retrouver toute la clique des néoconservateurs qui avaient finalement été les architectes intellectuels de l'intervention 2003, qui vont dire, vous voyez bien, voilà, Barack Obama a retiré les troupes en 2011. Ce qui se passe aujourd'hui dans la région, c'est lié à ça. Et puis, vous allez avoir les autres du côté davantage démocrates qui vont dire, écoutez, vous avez une vision un petit peu court-termiste. C'est l'intervention de 2003 qui a permis en fait à Al-Qaïda et à tous ces groupes liés à Al-Qaïda finalement d'émerger en Irak, qui n'existait pas avant l'intervention américaine. D'ailleurs, il faut rappeler que ce qu'on appelle État islamique, ou on ne sait plus comment les appeler, Daesh ou autre, ils se sont créés en réaction à l'intervention militaire de 2003. Et donc finalement, la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est gérer l'héritage aussi de ces années en fait de radicalisation dans la région contre tout ce qui s'est passé, la politique américaine. Et c'est vrai qu'il y a eu cette pression américaine récemment de dire à Maliki, il va falloir que vous ouvriez davantage la politique à la communauté sunnite, mais il faut aussi rappeler que cette aliénation de la communauté sunnite qui n'a cessé de radicaliser, donc d'alimenter tous ces groupes extrémistes, et en tout cas d'alimenter les soutiens à ces groupes extrémistes, c'est le point de départ, ça a été ce regime change de 2003, la politique du diplomate américain Paul Bremer qui est arrivé avec ses deux décrets, d'un côté démanteler l'armée irakienne et de l'autre de débasifier justement la société irakienne, mais qui a finalement complètement exclu les sunnites de la politique de l'armée irakienne. Et donc, ce que l'on voit aujourd'hui, et c'est tout le paradoxe, c'est que les Américains sont en train d'essayer, en tout cas, de rattraper toutes les conséquences de ces politiques. Et depuis 2003, je dirais, on voit que l'administration américaine, Bush dans un premier temps, aujourd'hui Obama, ça a été d'essayer de rattraper les conséquences dramatiques de ces deux décisions qui remontent à mai 2003. Et alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que Obama a nommé comme responsable, coordinateur de la coalition internationale qu'il est en train de rassembler, un général américain qui s'appelle John Allen, qui en 2007 était responsable à l'époque d'établir des contacts avec les chefs de tribus sunnites pour les rallier de manière circonstancielle à l'armée américaine et lutter contre Al-Qaïda qui commençait vraiment à s'affirmer, notamment dans la province d'Al-Anbar. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec cette nomination, eh bien, l'armée américaine va répliquer cette politique-là, puisque la seule, je dirais, peut-être option stratégique qui leur reste, en tout cas dans ces provinces ouest de l'Irak, c'est d'essayer de rallier à nouveau ces tribus sunnites contre ces groupes Daesh et autres qui perpétuent ces attentats. Donc en fait, l'histoire, pour moi, ne cesse de se répéter. Donc je ne suis pas tout à fait sûre, finalement, que, en tout cas du côté américain, qu'ils aient vraiment retiré les leçons de cette guerre en Irak qui remonte à 2003.
François Géré, l'histoire se répète.
Ce qui se répète surtout, c'est que les États-Unis, dans cette affaire, continuent à être essentiellement centrés sur leurs propres problèmes. En toile de fond, il faut toujours avoir présent à l'esprit que les États-Unis sortent d'Afghanistan et que pour Obama, pour le ministre de la Défense Hagel et les responsables américains, c'est ça qui est la chose la plus importante. Et en fait, Daesh, ça a été une espèce de contretemps par rapport à un planning qui n'avait pas prévu qu'on aurait à nouveau des difficultés en Irak.
Alors, ils y sont allés parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'y aller.
Il n'y avait pas d'autre choix compte tenu effectivement de l'extrême gravité de la situation et compte tenu aussi du fait que si les États-Unis n'y allaient pas ou étaient complètement absents, si les Occidentaux étaient complètement absents, qu'est-ce qui restait sur le terrain ? Bon, comme ça a été dit tout à l'heure, Bagdad a été sauvé vraiment in extremis par l'intervention des milices chiites et par l'intervention des Iraniens. Les Iraniens combattent depuis maintenant plusieurs mois aux côtés des Peshmerga. Et on remonte naturellement à la question que les États-Unis, enfin l'administration Obama, ne voulait pas trop soulever depuis le 31 août 2013 en ayant pris la décision de ne pas frapper en Syrie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec Bachar el-Assad ? Et on en revient à ce dilemme dont on va avoir énormément de mal à sortir, à savoir comment est-ce qu'on peut à la fois apporter la stabilité et sécuriser les frontières de l'Irak sans évidemment exercer une activité militaire en Syrie même, ce qui pose évidemment la question des relations avec Assad, sachant qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'armée de libération ou l'armée libre syrienne, sur le terrain, ça ne représente rien de significatif. Et les responsables militaires américains ont dit, si on veut que cette armée soit importante et ait un rôle militaire, ça représente à peu près un an d'équipement, d'entraînement, etc. Or, on voit très bien que les événements vont beaucoup plus vite que cela.
Alors, peut-être que la solution pour la région, elle est d'abord une solution irakienne et interne à l'Irak, Hocham Daoud. On va essayer de faire un peu de prospective. C'est peut-être pas le moment, quand on est en phase de guerre, de penser à ce que peut être une reconstruction, une réconciliation. En tout cas, il faudra bien un jour ou l'autre en passer par là. Est-ce que l'Irak, les Irakiens, vous paraissent aptes à se réconcilier un jour ? Par exemple, pourquoi pas, puisqu'on a beaucoup dit qu'en 2003, la fin de l'armée de Saddam Hussein avait conduit un certain nombre de sunnites à se retrouver dans des groupes radicaux dont certains, nous dit-on, entraînent aujourd'hui l'État islamique. Est-ce qu'un jour, il faut envisager que certains de ces combattants-là reviennent, par exemple, dans l'armée irakienne ?
Disons qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Pour sauver l'Irak tel comme il est, tel comme on le reconnaît depuis 80-90 ans, il faut passer par une réconciliation interne. Jusqu'à maintenant, c'est la voie de se distinguer qui l'emportait. Se distinguer par la violence assez souvent, par écarter l'autre, le chasser. Et aujourd'hui, on voit que tout le monde a payé un peu de sa vie. Les chiites, ils ont payé de lourds attributs. Les sunnites, ils étaient marginalisés, malmenés. Et puis l'Irak, c'est devenu un champ de combat fratricide entre les pays de la région. Donc pour s'en sortir, il faut par l'euro. C'est la raison pour laquelle il y a eu telle pression pour changer Maliki, parce qu'on le considérait, ce n'est pas l'homme de l'avenir. Celui qui le remplace, c'est
quelqu'un... Est-ce qu'il ne paye pas quand même pour tous les autres Maliki dans cette affaire? Il y a, alors, je fais référence à une interview qui est donnée, je crois que c'est aujourd'hui, le chercheur Pierre-Jean Luizard, qui évoquait aussi le poids des institutions irakiennes, en disant de manière avec ou sans Maliki, ça serait de toute manière compliqué, puisqu'on a institutionnalisé un pays, une division du pouvoir confessionnel, un petit peu comme on l'a fait au Liban, et que ça va être compliqué de revenir là-dessus.
Non, je crois que c'est un peu... dans la constitution irakienne, il n'y a pas une telle institutionnalisation.
Sauf que dans les faits, il y a quand même, en fonction des communautés, chacun a sa part de pouvoir.
C'est une démarche subjective, c'est fait par des courants politiques, soutenus par telle ou telle force, et puis au niveau confessionnel, régional, etc. Donc la pression pour, disons, remplacer Maliki, ça peut freiner un petit peu la chose, et s'ouvrira la voie, ça prendra de temps. Vous savez, il y a tellement de sang qui sont coulés depuis 10 ans, il faudra beaucoup de temps. La guerre civile, je suis devant François Géret, il le sait mieux que moi. Il y a deux, trois manières pour qu'il s'arrête. Soit c'est l'un qui écrase l'autre, et soit tout le monde est fatigué. À ce moment-là, les Irakiens, peut-être à un moment, malheureusement, il y aura encore de sang. Là, ils vont sentir qu'ils sont fatigués. Il faut arrêter.
Ça considérer que l'Irak en tant que tel, en tant que pays intègre du point de vue territorial, n'existe plus et n'existera plus.
C'est difficile à dire. Mais écoutez, ces derniers temps, c'est peut-être il y a quelque chose à dire à ce niveau-là. Curieusement, c'est en France, on a parlé sur la survie de l'Irak un peu plus qu'ailleurs. Un pays jacobin, français, qui tout se passe par le centre et par le capital, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à miser et parier sur la périphérie en Irak. On essayait de consolider la périphérie aux dépens du centre et à la fois même de faire préparer l'enterrement de l'Irak avant même qu'il soit mort. Non, pour l'instant, vous savez, là, la chose continue. Il y a un gouvernement légitime, il y a des gens qui se retrouvent, il y a des disputes, mais il y a une présence internationale assez importante. Il y a la possibilité de s'en sortir à condition qu'il y aura de souplesse dans chaque position, que la communauté internationale ne se relâche pas par rapport à la pression en Irak, et surtout associer les pays de la région. Sans cela, il n'y aura pas une sortie pour l'Irak et pour la région.
François Géret.
Oui, on ne peut pas faire de conférence de Paris comme on l'a fait il y a quelques jours. En n'invitant pas l'Iran, en n'invitant pas la Turquie, ou en ne s'assurant pas d'une manière ou d'une autre que ces pays vont venir participer. C'est absolument fondamental. Il n'y aura pas, ni pour la Syrie, ni pour l'Irak, de stabilisation si les pays voisins ne sont pas étroitement associés. Pour revenir à l'Irak, on parlait du général Allen. Au moment où un autre général, Petraeus, était devenu vraiment le grand pacificateur de l'Irak. Pourquoi ? Parce qu'il avait réuni les tribus sunnites qui étaient contre Al-Qaïda, qui étaient contre Zarqawi, qui a été éliminé avec la contribution des combattants sunnites et kurdes. Et Allen avait aussi, par rapport aux tribus sunnites, reçu l'appui des Saoudiens dans cette affaire. Or, Maliki, il y a un an et demi, dans une interview à France 24, si vous vous souvenez, avait déclaré qu'il était en guerre avec l'Arabie Saoudite. Bon. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Maliki ne pouvait pas rester Premier ministre. Donc, si aujourd'hui, on recommence les mêmes erreurs, c'est-à-dire on ne tient pas compte des tribus sunnites, on ne tient pas compte de l'Arabie saoudite, on ne tient pas compte de l'Iran, on va effectivement vers un chaos que les pays occidentaux ne pourront pas soutenir très longtemps.
Alexandra de Hopschaeffer, en quelques mots, fin mai dernier, Barack Obama prononce un discours devant l'université militaire de West Point, dans l'État de New York. Il dit ceci: « Depuis la Seconde Guerre mondiale, certaines de nos erreurs les plus coûteuses ne sont pas venues de notre retenue, mais de notre volonté de nous précipiter dans des aventures militaires sans penser à toutes les conséquences. » Alexandra de Hopschaeffer, on est un peu dubitatif quand on relit ces propos par rapport à ce qui est décidé aujourd'hui. Mais manifestement, Alexandra Dobbs-Schaeffer n'est plus avec nous, donc nous n'aurons pas la réponse. Peut-être vous, François Giret, lors d'un mot.
Le problème, c'est que dans son discours de West Point que vous mentionnez très justement, le président Obama contrait la politique de George W. Bush, c'est-à-dire qu'il a attendu curieusement 2013 pour dire qu'on avait commis des erreurs fondamentales en 2003. Et entre-temps est intervenue la Libye, qu'on retrouve aujourd'hui, et interviennent des événements qui font que un désir de mettre en avant la diplomatie, à certains moments, ne correspond plus du tout à la situation sur le terrain.
Eh bien, merci beaucoup François Giret, Ocean Nahoud et Alexandra Dobbs-Schaeffer d'avoir participé à cette discussion. Demain, à partir de 18h20, y a-t-il un nouveau malaise adolescent ? Changement de sujet radical, ce sera l'occasion de la publication par l'UNICEF d'une grande enquête nationale consacrée aux 6-18 ans. Tout de suite, c'est le rendez-vous avec quelqu'un qui ne fait plus partie de cette tranche d'âge. Depuis peu, c'est Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.